Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'Irak, plongé dans une impasse politique depuis les élections législatives d'octobre dernier, le pays qui a été le théâtre la semaine dernière de combats entre des partisans de Moqtada Sadr et les forces de sécurité. L'éclairage dans votre édition de David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. En Tunisie, le Front de salut national annonce qu'il boycottera les élections législatives du 17 décembre prochain. Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi du Conseil national de la refondation, une instance voulue comme un outil de renouveau démocratique. La fête de l'humanité, demain, samedi et dimanche prochain, nous y reviendrons avec Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de l'Humanité. La situation en Irak. Le pays est plongé dans une impasse politique depuis les dernières législatives d'octobre dernier. L'Irak, qui a été le théâtre la semaine dernière de combats entre les partisans de Moqtada Sadr et les forces de sécurité. Sur cette situation, entretien avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Ils traduisent d'abord une instabilité, une impasse, on va dire, institutionnelle, puisque depuis les résultats des élections de la fin de l'année 2021, il y avait l'Irak est en attente à la fois d'un gouvernement et d'un nouveau président. Et il se trouve que depuis lors, tout paraît bloqué et c'est ce qui induit des tensions de plus en plus fortes, notamment la semaine dernière avec l'invasion de la dite zone verte par les affidés du trublion, on va dire, politique, sur l'échiquier politique irakien, Moqtada al-Sadr.
Et le président irakien souhaite des élections anticipées. Est-ce envisageable aujourd'hui?
C'est une demande de Moqtada al-Sadr, qui est un chef chiite, qui a gagné les élections législatives fin 2021, puisque c'est lui qui a obtenu 73 sièges sur 329. Mais il n'a pas été en mesure depuis de constituer une majorité pour établir un gouvernement. Et c'est là le problème. Et il se trouve que depuis le 13 juin dernier, les 73 députés sadristes ont décidé de sortir du Parlement, de démissionner, justement parce qu'il y a eu une impasse institutionnelle et que depuis lors, rien n'est fait. Il y a des obstacles à la fois en termes de quorum au Parlement ou de tensions politiques qui sont pour le coup souvent intra-chiites. Et c'est la nouveauté de la situation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces dernières années, les tensions étaient surtout entre, on va dire, la minorité sunnite et puis la majorité de la population chiite, puisque la chute de Saddam avait permis l'accession justement des chiites au pouvoir en Irak. Mais aujourd'hui, a fortiori depuis le départ des Américains, les tensions qui traversent le pays traversent surtout en fait la communauté chiite, et c'est ça qui est assez singulier.
Et c'est une demande qui est désormais appuyée par le président irakien, ces élections législatives anticipées.
Oui, ça passerait par une dissolution d'abord du Parlement et effectivement de nouvelles élections. Mais il n'est pas sûr que ces nouvelles élections pourrait faire sortir de l'impasse, parce qu'on pourrait se retrouver dans une configuration qui serait peu ou prou la même en termes de répartition des sièges, et notamment avec une fragmentation, on va dire, parlementaire, puisqu'on est dans un système parlementaire, et c'est ça qui implique un peu à l'italienne, hein, il faut trouver des combinaisons, justement des coalitions, et dans le cadre évidemment irakien, c'est très compliqué.
Cette crise politique en Irak qui provoque la colère de certains Irakiens, nous l'avons vu la semaine dernière avec différentes manifestations.
Beaucoup d'Irakiens, alors là en l'occurrence, effectivement, c'était surtout le parti Sadris qui était représenté, hein, les affidés du chef Moqtada al-Sadr, mais de manière générale, effectivement, ces revendications, elles traversent toute la société irakienne, elle est assez transconfessionnelle d'ailleurs. Depuis des années, le pays est miné en fait par d'abord par la rachwa, c'est-à-dire la corruption. qui gangrène effectivement le système institutionnel irakien, qui implique une répartition ethno-confessionnelle du pouvoir et de ses attributs et de ses intérêts. Et donc l'Irak se retrouve effectivement avec une gouvernance défaillante, alors même que l'Irak est potentiellement un pays riche, puisqu'il est un des plus gros producteurs et exportateurs de pétrole, alors même que les cours aujourd'hui de pétrole augmentent, et c'est d'autant plus insupportable pour la population qui ne bénéficie pas des infrastructures les plus élémentaires en termes d'eau, d'adduction d'eau, d'électricité, et ça suscite la colère aujourd'hui, pas seulement effectivement confessionnalisée, mais une colère plus générale contre ces élites, en réalité, et la gouvernance défaillante qui conduit à l'impasse.
Et quel est l'état de la situation économique aujourd'hui en Irak ?
Elle est, pour la population, elle est mauvaise, parce que effectivement, en termes d'infrastructure, le pays est complètement défaillant, alors même que il y a des rentrées d'argent qui sont en augmentation, justement, avec la hausse du cours du baril, qui s'est accentuée à la faveur de la guerre en Ukraine, puisqu'il y a des phénomènes effectivement cascades qui se produisent. Et de ce point de vue-là, l'Irak ne serait pas le plus mal loti pour faire face à un certain nombre de défis économiques et sociaux. Et pourtant, du fait de cette gouvernance très défaillante, l'Irak n'est pas en situation de fournir à sa population les besoins les plus élémentaires. Et c'est ce qui fait monter la pression, justement, devant l'impasse institutionnelle.
L'Irak, qui est le deuxième pays exportateur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, quel impact la crise actuelle peut avoir sur la situation énergétique internationale ?
Dans l'immédiat, l'Irak serait plutôt bénéficiaire indirect avec la montée des cours du pétrole, s'il n'y avait pas ce problème structurel de la gouvernance et de la corruption et du système confessionnel qui gangrène le fonctionnement du pays, mais concrètement, il n'en tire pas les bénéfices qu'il pourrait espérer en tirer, justement. Alors il y a une réunion de l'OPEP là qui est prévue pour éventuellement définir quels seront les prochains quotas pour maintenir un prix relativement élevé. Mais c'est pas le problème de l'Irak aujourd'hui, c'est pas le prix du pétrole, c'est le problème de la gouvernance, de la malgouvernance. Et c'est ça qui n'est pas résolu. Elle n'est pas résolue et elle est potentiellement vecteur de violence. D'aucuns ont évoqué la possibilité d'une guerre civile intra-chiite, du fait de la stratégie au bord du gouffre menée par Moqtada al-Sadr. Mais effectivement, il y a aujourd'hui un problème de fond à régler, qui est le problème post-Saddam de 2003, c'est-à-dire lié aux institutions qui ont été mises en place et qui parfois font qu'il y a un blocage structurel du fonctionnement de la gouvernance, qui est le cas aujourd'hui.
Vous publiez, David Rigoulet-Rose, aux éditions L'Harmattan, « République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments ». Actuellement, les exportations gazières de l'Iran se limitent à l'Irak et à la Turquie. Un assouplissement des sanctions américaines pour pouvoir acheminer du gaz à l'Europe est-il envisageable aujourd'hui ?
Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, parce que c'est soumis à une finalisation d'un accord avec l'Iran. Et donc la situation est encore bloquée. L'Iran donne des hydrocarbures, notamment de l'électricité pour l'Irak, qui en a besoin. Donc il y a des liens entre les deux pays et il y a des exemptions, des dérogations de la part des Américains en matière de sanctions pour que l'Irak ne sombre pas dans le chaos, justement, qu'il puisse recevoir un minimum de la part de l'Iran pour pouvoir faire tourner un certain nombre d'infrastructures. Donc c'est les fameux waivers qui ne sont pas généralisés parce que l'accord n'a pas été finalisé. Et évidemment, on retrouve à la fois le jeu iranien, l'importance de l'Iran en Irak, aussi au niveau institutionnel, puisque dans la lutte, dans le conflit aujourd'hui pour nommer un premier ministre, c'est une opposition entre, on va dire, une forme de nationalisme chiite qui serait incarnée par Moqtada al-Sadr, et puis en face de lui, les pro-iraniens, de ce qu'on appelle le cadre de la coordination qui regroupe les partis pro-Iran, en l'occurrence celui de Nouri al-Maliki, et puis de les brigades enfin, de Ali el-Ameri. Donc il y a l'idée aussi qu'il y a une tension intrachide qui est liée aux ingérences extérieures et qui embolisent en fait la gouvernance irakienne.
Concernant la société civile irakienne aujourd'hui, comment est-elle structurée ?
Il y a des tentatives qui sont pour l'instant encore modestes, mais on l'a vu au moment des élections fin 2021, avec l'apparition de partis qui ne voulaient pas justement s'aligner sur une logique confessionnelle et qui regroupaient un certain nombre de candidats, dont on va dire non alignés, quel que soit leur obédience confessionnelle et aussi politique. Et en même temps, ils n'ont pas suffisamment d'élus pour pouvoir constituer un poids structurel au niveau parlementaire. C'est le problème de cette instabilité, effectivement, parlementaire pour déboucher sur une gouvernance viable.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Son dernier ouvrage, publié chez l'Harmattan, La République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments. En Tunisie, le Front de salut national annonce qu'il boycottera les élections législatives du 17 décembre prochain. Le FSN est une coalition de partis d'opposition dont fait partie Ennahda. Après des mois de blocage politique, le président tunisien Kais Saied avait le 25 juillet 2021 suspendu le parlement dominé par Ennahda et limogé le gouvernement. La Tunisie, où l'inflation a atteint un nouveau record, une inflation de 8,6% au cours du mois d'août contre 8,2% en juillet, une hausse des prix qui impacte de plus en plus le pouvoir d'achat des Tunisiens, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. Un Palestinien a été tué à l'aube dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il a été abattu après avoir attaqué un soldat israélien avec un marteau. C'est arrivé près du village de Bétine à l'est de Ramallah. Réaction de l'Iran après la publication du rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA a émis des doutes sur le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran. L'Iran affirme que ce rapport est une répétition à des fins politiques d'affaires antérieures sans fondement, des mots du porte-parole de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Les autorités égyptiennes font état de la détection d'un premier cas de variole du singe. Un homme de 42 ans a été placé à l'isolement dans un hôpital. Le ministère de la Santé souligne qu'il s'agit d'une personne titulaire d'un titre de séjour d'un pays européen dans lequel il se rend régulièrement. Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi du Conseil national de la refondation, une instance qui se veut comme un outil de renouveau démocratique. Instance déjà contestée et boycottée par les oppositions. Une quarantaine de participants représentatifs de la société dans le social, l'économie, la politique, l'associatif, la santé et l'environnement et une dizaine de ministres participent à ces échanges autour de 5 grands thèmes, le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. L'invité de Pluriel hier soir était Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de l'Humanité. Un entretien accordé à l'occasion de la fête de l'Humanité qui se déroulera demain, samedi et dimanche. Extrait.
C'est un programme extrêmement riche. C'est une fête d'abord populaire, accessible au plus grand nombre. Puisque je rappelle que le bon soutien au journal L'Humanité, disponible à 35€, permet l'accès aux 3 jours de fête. Et au moment où la culture souffre et où beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes sont privés de culture parce que l'accès à un musée, à un concert, à une exposition coûte extrêmement cher, pour 35€ pour 3 jours, vous avez accès à un programme culturel extrêmement varié. Vous avez raison. D'abord, les scènes musicales, nous y accueillerons 49 artistes cette année. Vous avez cité Dutronc et Dutronc, Section d'Assaut. Il y a aussi Christophe Maé, Camélia Jordana, Célia Sioux. Il y a aussi du reggae, du rock. Bref, tous les styles musicaux sont mis à l'honneur. On a aussi des expositions. Nous avons aussi un village du livre avec 250 auteurs qui viendront dédicacer leur ouvrage. Nous avons aussi beaucoup de choses, notamment dans la scène art vivant avec du cinéma et du théâtre. Bref, vous avez 3 jours de culture. Et puis, en même temps, vous avez des débats politiques extrêmement riches, puisque c'est une fête militante et engagée. Et cette année, il y aura l'ensemble des forces politiques de gauche qui seront présentes, mais aussi associatifs, syndicales, d'éducation populaire, des ONG, beaucoup de personnalités seront présentes à la fête de l'Humanité. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, à côté de ça, vous pourrez déguster la gastronomie de tous les départements français, mais aussi du village du monde, puisque nous sommes une fête internationaliste. À peu près 100 à 120 stands du village du monde viendront avec des délégations étrangères. Et donc pour nous, c'est une richesse incroyable, c'est un événement unique où vous pouvez venir pour voir un concert, mais en réalité découvrir beaucoup de choses et vous faire beaucoup d'amis, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. C'est surtout la fête de la fraternité retrouvée. Parce qu'après 2 ans de Covid qui nous ont beaucoup isolés les uns les autres, il y avait besoin de pouvoir se retrouver pour continuer à débattre et échanger. Et donc, nous espérons accueillir le plus grand nombre. Et je rappelle que c'est une fête ouverte à chacune et chacun qui souhaite y venir pour un concert ou pour partager un bon moment. Donc, celles et ceux qui ne sont jamais venus à la fête de l'humanité, nous vous y accueillons les bras grands ouverts.
Et on peut venir en famille avec ses enfants, notamment.
Bien sûr, et c'est une fête où l'entrée pour les moins de 12 ans est gratuite, et jusqu'à 15 ans, c'est 5 euros.
Vous l'avez dit, Fabien Gay, cette année, tous les ténors de la gauche seront présents, et ce sera notamment le grand retour de Jean-Luc Mélenchon, qui était venu pendant plusieurs années à la fête de l'UMA, notamment lors de la création de son premier parti, le parti de gauche. Ça lui a porté chance de venir à la fête de l'UMA. Ce sera l'occasion de montrer que la NUPES existe toujours.
Il y aura Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Julien Bayou, mais aussi Marie-Noëlle Lienemann, beaucoup de personnalités de l'ensemble de la gauche, de Lutte ouvrière, du NPA, de Génération, évidemment les nombreux stands du Parti communiste français avec le secrétaire national Fabien Roussel. Et donc oui, il y a la NUPES et il y aura beaucoup de débats, notamment un à 16h à l'Agora le samedi avec Fabien Roussel, Olivier Faure, Julien Bayou et Mathilde Panot, et il y aura beaucoup de débats sur la NUPES, mais aussi plus largement de toute la gauche et des forces syndicales, associatives. Donc évidemment, nous sommes très contents que tout le monde vienne à la fête de l'humanité et que Jean-Luc Mélenchon y revienne, et que pour la première fois, nous allons accueillir un stand du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts.
Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de l'Humanité. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Le retour de Si on en parlait ce soir à 19h et 23h. Le thème de cette émission, la métamorphose des clercs, quel impact pour les intellectuels aujourd'hui. Alexis Bachelet recevra Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Alexis Lacroix, journaliste, professeur de lettres. Fin de cette édition, il est midi 17. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.